Nous sommes le lundi 10 juin 2019, il est 11h24 en temps universel, 2 heures de plus à Paris. C'est l'heure de votre émission, c'est l'heure du journal des auditeurs.
Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes de retour en ce début de semaine. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos réactions à la situation en Algérie. L'Algérie dans l'impasse après l'annulation de la présidentielle. Les Algériens sont de nouveau descendus dans les rues massivement vendredi dernier, notamment pour réclamer une transition. Alors quelles seront désormais les suites de ce mouvement? Pour participer, nous faire part de vos commentaires, appelez-nous dès maintenant. Maintenant que vous soyez en France, en Afrique ou dans le monde, au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Nous en parlerons dans quelques instants avec Moussab Hamoudi, les chercheurs doctorants à l'école des hautes études en sciences sociales. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour auditeur de Africa numéro 1. Aujourd'hui, en fait, j'interpelle les Africains, car plus précisément, j'interpelle les Camerounais, parce que hier, j'ai regardé les festivités en fait, du 75e anniversaire du débarquement. Je n'ai pas entendu parler des Africains. Je n'ai pas entendu parler des anglophones, des francophones. Alors, c'était juste pour vous faire comprendre que, mais vraiment, nous sommes tellement cons, excusez-moi hein, l'expression « con », ça ne veut pas dire une insulte, mais c'est juste pour dire qu'on n'a toujours rien compris, que nous nous battons pour des causes, en fait, qui ne nous concernent pas et que nous faisons juste un seul peuple. Et donc, en même temps, je m'adresse à tous ceux qui se disent ambazouniens, que, en fait, on est juste un seul peuple, ceux qui se disent Togoland ou, je sais pas moi, les Biafrais, tout ça, qui veulent leur indépendance, c'est des faux débats. Développez vos régions, développez votre pays, c'est l'essentiel. Au lieu d'acheter des armes pour aller tuer vos frères, c'est pas une raison, en fait. Et en même temps, j'en profite pour dire au président Hamad de la CAF, de tenir bon, et que vraiment, je trouve ça dommage, quelqu'un qui veut changer les choses, et qu'on essaye de salir son nom comme ça, ben vraiment, je lui demande de tenir bon, et que nous sommes derrière lui, moi qui suis d'origine camerounaise, et que vraiment, qu'il tienne bon. Merci beaucoup, et à bientôt. Au revoir.
Oui, bonjour Radio Africa. Je pose une question à tous les Congolais. Chers frères, soyons conscients. Où va Tshisekedi depuis sa présidence nommée? Là, il est en train de nommer des gens à des postes, des gens qui ne sont pas conscients, c'est-à-dire qu'il est en train de signer inconsciemment des nominations. Un président qui signe des nominations inconsciemment. Vous trouvez ça normal? Il nomme des gens qui n'ont pas le profil et il attend des négociations. Comment expliquer ça? Et là, j'ai suivi M. Kassongo, qui est en train de porte-parole, qui est en train de dire qu'il veut comparer la Belgique pour le gouvernement. Donc, là, on vient de nommer le Premier ministre après 6 mois. Et pour le gouvernement, il faut attendre un peu encore. Et je ne sais pas des négociations. Et M. Kassongo qui dit la Belgique avait fait au moins 1 mois, une année. Est-ce que le Congo veut comparer la négociation, l'attente de la Belgique pour former le gouvernement? La Belgique sait gérer le pays. Non, attends, à raison de jouer. Tshisekedi est en train de jouer au feu. La Belgique a mis une année, mais le gouvernement fonctionnait. Et là, on nomme des gens inconscients, Tshisekedi qui ne sait pas ce qu'il est en train de signer, et Caméléon qui est là, qui l'entraîne avec une attitude, il signe des dossiers sans voir ce qu'il y a dedans.
Oui, bonjour Africa Radio, c'est Jean-Louis Mbenga. J'appelle par rapport à la République démocratique du Congo, Kinshasa. Mon message s'adresse à M. Tshilombo, Félix. M. Tshilombo, voilà, ça fait 5 mois, vous êtes à la tête du Congo, mais ça, vous patinez, hein, ça patine. Hein, au niveau de la mise en place du gouvernement, déjà, pour renommer Premier ministre, ça a pris beaucoup de temps, et entre-temps, le temps file. C'est Chilombo. Il faut se rendre compte de l'évidence de fait, de la fatuité des choses. Tu ne vas pas nous inventer la démocratie à la Chilombo. Ça n'existe pas. Les Chilombo, il faut se rendre compte, quand tu n'as pas la primature et le gouvernement, quand tu n'as pas l'Assemblée nationale, quand tu n'as pas le Sénat, quand tu n'as pas les assemblées provinciales, quand tu n'as pas les Chilombo, les gouverneurs, quand tu n'as pas les Chilombo, les contrôles sur l'armée, quand tu n'as aucun contrôle, comment veux-tu, M. Chilombo, je vous pose la question, diriger ces pays?
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, l'Algérie dans l'impasse. Après l'annulation de l'élection du 4 juillet prochain, la position de l'armée reste celle de la légitimité constitutionnelle et de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle dans les plus brefs délais. Une position rejetée par les manifestants à côté de ce blocage. Les arrestations et convocations d'hommes d'affaires et de proches de l'ancien président continuent. Cela peut-il suffire à donner aux manifestants des gages? Nous en parlons tout de suite avec Moussab Hamoudi, chercheur doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Moussab Hamoudi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, avec le report de l'élection présidentielle, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie désormais est dans une situation de vide constitutionnel?
Oui, absolument, c'est le cas. Et donc, c'est un nouveau processus, c'est un nouveau contexte, du moins, parce que là, on est passé de Chirac, donc de la mobilisation, à une situation de processus révolutionnaire, parce qu'on est complètement sorti de la constitution actuelle à laquelle se maintenait, essayer d'imposer le vrai gouverneur de l'Algérie, comme il est appelé ici, c'est-à-dire l'institution militaire et plus précisément le commandement militaire. Donc actuellement, en Algérie, il n'y a pas de constitution, malgré les tentatives de tordre les textes de la loi. Mais ce qui reste incompréhensible, c'est la prolongation du mandat du président provisoire, Ben Salah, qui ne s'appuie pas sur un texte de la Constitution, c'est-à-dire il est venu de manière arbitraire suite à une décision qui avait l'air sur la façade d'être par le Conseil constitutionnel, en fait qui était dictée par le commandement militaire. Elle ne s'appuie pas sur un texte, encore une fois. Et du coup, on est dans une situation de non-constitutionnalité. Et même les tentatives d'imposer une forme, un simulacre de constitution est fait de maladresse, parce qu'on ne comprend pas comment le conseil constitutionnel, à travers sa jurisprudence, a délaissé et a rendu caduque des textes clairs, tels que l'article 7 et 8, qui parlent de la légitimité du peuple à revendiquer la forme de gouvernance. Et donc c'est lui la source de la légitimité politique. Le Conseil constitutionnel a complètement délaissé ces deux articles, alors qu'ils sont très demandés par la rue. Et il est allé tordre un texte élastique, flou, qui est l'article 102, auquel s'accroche Gayed Salah, le chef d'état-major, pour l'imposer et prolonger les prérogatives de Ben Salah. Donc tout ça, c'est un simulacre de constitutionnalité, mais qui rejoint le contexte de non-constitutionnalité. Donc on sait que la priorité du Conseil constitutionnel était de voir s'il était constitutionnel ou non-constitutionnel d'appeler à des élections sans qu'il y ait un comité indépendant d'organisation des élections, lequel était dissous par Bouteflika. Et donc, même appeler le corps électoral n'est pas fait dans les bonnes formes constitutionnelles.
On va voir dans quelques instants, justement, Moussab Hamoudi, si finalement sortir de la logique constitutionnelle ne serait pas une façon de rompre vraiment avec l'ancien régime. Mais avant cela, on va écouter un auditeur qui nous appelle depuis le Tchad. Christian, bonjour.
Ouais, bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Christian. Alors, quel regard portez-vous sur cette situation en Algérie et ce bras de fer entre militaires et manifestants?
Oui, ce bras de fer entre manifestants et militaires montre que la démocratie est vraiment fragile dans ce pays. Il faudrait que l'Union africaine intervienne aussitôt pour établir l'ordre dans ce pays.
C'est très clair. Merci beaucoup, mon cher Christian. Je crois que la ligne n'est pas très bonne. Moussa Bamoudi, je répète la question que je viens de vous poser, parce que les militaires disent vouloir un dialogue sincère, préalable à l'organisation d'une nouvelle transition, d'une nouvelle élection, et pour eux, justement, une période de transition telle que souhaitée par des manifestants conduirait vers une situation encore plus difficile à maîtriser. Alors, ma question était celle-ci. Est-ce que, finalement, sortir de la logique constitutionnelle, ce ne serait pas une façon de rompre vraiment avec l'ancien régime? Et c'est ce que demandent les manifestants.
La question est pour moi ?
Oui, Moussa Mahmoudi, tout à fait.
Oui. Non, en fait, parce que déjà, le commandement militaire n'utilise pas et rejette, on l'a vu avant-hier dans l'article, dans l'organe de propagande du commandement militaire, il rejette le mot « transition » et « période de transition ». Il le rejette complètement. Et donc, il n'est pas dans une souplesse... De compréhension de la revendication populaire. Il est plutôt dans l'entêtement. Et cet entêtement est problématique parce que, à la force, il va imposer une situation, finalement, de facto, de coup d'État. C'est ça l'enjeu de la posture du commandement militaire. C'est que la rue, elle demande une transition démocratique, laquelle est complètement rejetée par le commandement militaire. Donc, deuxième option offerte par le FEAC, donc par la mobilisation populaire, c'est d'aller à des négociations. Les négociations pour engager une bonne foi de la part du commandement militaire, elle a quatre préalables. Donc, d'abord, relâcher tous les prisonniers qui sont incarcérés à cause de leur militantisme et leurs idées politiques. Donc, on sait que, par exemple, Haj Gharmoul, qui est un jeune Algérien, qui était le premier à brandir le slogan, même avant le 22 février, au cinquième mandat de Bouteflika. Il était incarcéré avant le commencement de la mobilisation et il y est encore incarcéré. On sait qu'il y a un militant d'Amadien Fakhar qui a été assassiné, d'après son avocat, dans la prison à cause de ses revendications populaires. Et il y en a tant d'autres qui sont encore incarcérés. Donc le premier préalable, c'est de relâcher ces militants qui sont incarcérés à cause de leur position politique. Deuxième préalable, c'est la dissolution de la police politique qui existe encore et qui fait encore énormément de mal sur le terrain aux militants. Aussi, le troisième préalable, c'est d'ouvrir le champ politique et médiatique à tous les citoyens algériens pour qu'ils puissent s'exprimer à travers les journaux, les médias, mais aussi les syndicats et les associations à caractère politique. Et quatrième préalable, c'est de permettre à tous ceux qui sont exilés et interdits d'avoir leur passeport à cause de leur position politique, leur permettre d'obtenir leur passeport et de revenir au pays. Donc, sans ces quatre préalables, bien sûr, il n'y a pas de garantie.
Ni de dialogue et de négociation, si j'ai bien compris, Moussa Mahmoudi, c'est ça?
Oui, les quatre préalables pour dialoguer. Mais c'est une négociation dans ce cas-là. Mais justement, ça aussi est rejeté par le commandement militaire qui veut dire, qui dit en substance, non, je rejette tout ça, je rejette vos deux solutions et venez dialoguer avec moi. En fait, c'est pour imposer le retour de ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire choisir ceux avec qui il dialogue parmi les anciens partis exclus et rejetés en bloc parce qu'ils étaient constitués l'ancien régime. Et donc, la rue refuse cette façon. Et c'est ce qui fait cette impasse qui prend la forme constitutionnelle, mais en fait, c'est une rupture avec l'ancien régime. C'est une rupture violente. Et c'est ce qui fait que, d'une part, on vit, d'un point de vue militaire, du commandement militaire, que ils sont dans une crise. Le commandement militaire est complètement dans une situation de crise. Or, la rue, la mobilisation, voit en ça un processus révolutionnaire, pacifique et merveilleux.
Une mobilisation qui ne faiblit pas d'ailleurs, hein, on l'a vu, vendredi dernier. Merci Moussa Hamoudi. Alors quelques messages de nos auditeurs sur la page Facebook. Maurice nous dit « Bonjour, l'essentiel n'est pas de faire partir un dirigeant, mais de le remplacer tout en préservant les acquis. Le chemin est encore long pour notre pays frère. » Voilà ce que nous dit Maurice. Et puis il y a Jean-Claude qui dit « Bonjour, cette situation devient de plus en plus très inquiétante. Il va falloir que l'Union africaine... » interviennent. Je vous demanderai de réagir dans quelques instants, Moussa Hamoudi. Avant cela, on écoute nos auditeurs. Aïko, bonjour. Allô, Aïko.
Bonjour.
Bonjour, Aïko. Alors, quel regard portez-vous sur cette impasse en Algérie?
Pour moi, je vois que c'est le commandement militaire qui a confisqué la liberté des Algériens. Parce que s'il n'y avait pas le commandement militaire, l'Algérie pouvait vraiment passer dans les passes. Et la Constitution, comme la Constitution parle, 90 jours après la démission du président, on pouvait organiser les élections. Mais comme le commandement militaire est là, les militaires ne veulent plus que les anciens dignitaires de Bouteflika quittent la scène politique. C'est pour cela qu'ils font des manœuvres que les anciens membres de Bouteflika restent toujours au pouvoir et le commandement militaire confisque le pouvoir. C'est pour ça que nous demandons aux peuples algériens d'être vigilants, vraiment de pas rentrer dans la maison, mais rester toujours dans la rue pour que les gens, les anciens membres de Bouteflika quittent vraiment la scène politique et la nouvelle génération vienne pour vraiment respecter la démocratie à la République algérienne. C'est ça que nous demandons aux Algériens, de rester vraiment mobilisés, parce qu'avec la mobilisation, ça changera. Avec la mobilisation, l'état-major général changera aussi. Il y aura un nouveau chef d'état-major et il va ramener le pays vers la démocratie et vers des élections libres et transparentes pour vraiment les Algériens votent vraiment et choisissent leur autorité pour diriger leur pays. Parce qu'avec les dirigeants, avec les anciens dignitaires de l'armée, l'Algérie ne marchera pas et ils vont toujours faire des manœuvres toujours pour dribbler les Algériens dans la farine pour rester toujours au pouvoir. Comme nous les Congolais, nous avons fait la pression et Kabila est parti. Et maintenant, nous avons un dirigeant, un nouveau président. Avec ce président-là,
Pour pousser la comparaison jusqu'au bout, hein, voilà, c'est ce que vous dites. Le dirigeant Kabila est parti, mais voilà, une sorte d'état profond, pour reprendre l'expression de Moussa Hamoudi, qui demeure. Merci Aïko pour ce point de vue. Nadine, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Nadine. Vous avez entendu Aïko Mopongi qui dit voilà, il faut que les Algériens restent mobilisés. Plusieurs hommes d'affaires, dont la plupart sont soupçonnés d'avoir obtenu des marchés publics grâce à leur lien avec l'entourage de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, ont été placés en détention provisoire. D'autres sont entendus par la justice. Est-ce que selon vous, c'est des gages suffisants donnés aux manifestants?
Tout d'abord, je souhaiterais, Stéphanie, vous dire de nous parler souvent des pays comme l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, que je souhaite ce matin encore saluer ces peuples courageux, ces peuples déterminés, qui malgré les armes, malgré la pression militaire qui était derrière ces peuples et les généraux que Bouteflika avait derrière lui, n'ont pas hésité de se donner corps et âme pour leur pays, d'abord. Ces peuples, qu'ils soient vraiment bénis, ces peuples d'Algérie, ils s'en sortiront, ils s'en ont déjà en sortie. On ne peut pas faire partir un dictateur par les élections. Quand mon prédécesseur, Aïko, je ne sais pas, veut faire, au fait, comparaître la situation en Algérie et les Zaïre, qui est devenue la République démocratique du Congo, ça n'a aucun rapport. Quand on nous parle de comme quoi Kabila est parti, il est parti dans quelles conditions? Et le président actuel est dans quelles conditions? C'est des élections, ça, Stéphanie? Juste n'est pas... comparaison n'est pas raison. Voilà. J'aimerais bien faire éclaircir un peu à ce point-là. Donc, pour nos peuples, pour les autres peuples africains francophones qui attendent que le ciel ou l'Europe ou l'Occident viennent en aide, il n'y aura pas de solution s'ils n'en fassent pas autant comme la Tunisie et le Burkina. Chasser des dictateurs par la force. Un dictateur qui est resté 20-30 ans au pouvoir, qui est habitué à la facilité, vous, par les élections qu'il organise lui-même, vous attendez à quoi? Non mais, on n'a jamais vu ça en Afrique depuis, au moins, je ne sais pas si ça s'est passé il y a 100 ans, mais là, il y a 30-40 ans, aucun dictateur ne se voit partir par des élections qu'il organise lui-même.
On a dépassé ce stade en Algérie, Nadine, mais bon, on a bien compris votre point de vue. Moussa Hamoudi, je reviens vers vous. De quel levier disposent les manifestants pour faire pencher le rapport de force? Vous avez évoqué les négociations et les préalables au dialogue. Et surtout, est-ce que l'absence de leader, en tout cas l'apparente absence de leader, joue en défaveur de la révolution?
Bien sûr, la rue dispose d'un fort levier, c'est-à-dire la pression populaire. Et c'est pas un argument faible, c'est très puissant, parce qu'on voit une mobilisation impressionnante qui est impossible à réprimer, surtout qu'elle est unitaire. On n'a plus la configuration qu'on a connue lors du printemps arabe, de démocrates, islamistes, à mettre entre guillemets entre les deux concepts. Mais on est en face à une population complètement soudée qui s'est rendu compte qu'il faut mettre de côté les divergences d'ordre idéologique qui sont secondaires, car le problème initial actuellement auquel il faut faire face, c'est l'autoritarisme de type militaire dans les nationalismes arabes, c'est-à-dire enfin le commandement militaire. Maintenant, on a deux camps qui s'affrontent clairement. On a le commandement militaire et non pas l'armée, parce qu'il y a une nuance à faire entre l'armée, qui est une armée populaire, faut-il le rappeler, en Algérie. Donc chaque Algérien a un membre de sa famille qui est dans l'armée. Or, l'armée est complètement en état de misère, pendant que le commandement militaire dirige le pays avec une main de fer en étouffant les libertés. Donc ça, c'est le premier camp. L'autre camp, c'est la population mobilisée. Donc c'est ça le levier fort, c'est que la population est complètement engagée pour revendiquer une démocratisation complète et totale, pas un quart de démocratisation ou un semblant de démocratie. Cette force de l'État civil, l'État-major feint de l'ignorer. Mais bien sûr, il a ses rapports, il a ses activités sécuritaires qui lui donnent des rapports. Et c'est ce qui fait que ce rapport de force, actuellement, semble ne pas avoir d'issue. Et il y a énormément de lectures fausses qui essaient de s'allier plus vers le côté de l'armée ou plus vers le côté d'une frange de la mobilisation, alors que le paysage, que le topo général, et qu'il y a deux volontés qui s'affrontent, une volonté de démocratisation et une volonté de la part de la population, une volonté de la part du commandement militaire de régénérer l'ancien système. Et c'est pour ça que les solutions constitutionnelles, en fait, sont un cheval de Troie pour maintenir l'oligarchie corrompue, comme on l'a vu. Et d'abord, la mobilisation algérienne a bien compris les enjeux de l'oligarchie d'après les cas de l'Égypte et de la Tunisie, où on a incarcéré des hommes d'affaires oligarques, des apparatchiks. Mais dès qu'on a étouffé la révolution, on les a relâchés, ils sont revenus à leur activité. Donc, pour qu'il ne s'agisse pas de se conformer à la Constitution de la part du régime, mais il s'agit de la tordre, de choisir ce qui arrange le commandement militaire et de tordre le texte de la loi. Maintenant, concernant l'Union africaine que votre interlocuteur a évoqué, l'enjeu en fait est grand en Algérie, parce qu'on a vu effectivement, c'est souligné à juste titre, parce qu'on a vu l'intervention de l'Union africaine dans le cas soudanais. Avec l'Algérie, je pense que le cas est beaucoup plus grand. Parce que l'Algérie, il ne faut pas oublier, c'est un pays stratégique, c'est un pays pivot entre la région Sahel, entre le continent Afrique, entre le Proche-Orient, et puis une ouverture sur l'Europe. Donc je ne pense pas que l'Union africaine va intervenir ou va formuler une proposition de sortie de crise. Elle attendra d'abord donc que le processus soit plus visible au niveau des puissances mondiales, et notamment des 5 éléments de membres du Conseil de sécurité à l'ONU. Parce que, bien sûr, s'il y a une déstabilisation en Algérie, c'est pas, entre guillemets, l'enfer qui va s'ouvrir sur l'Algérie, mais ça sera surtout l'Europe avant tout, puisqu'on sait que l'Algérie a un littoral de 1200 kilomètres, et qui sera tout ce littoral deviendra un port d'émigration clandestine. Et puis tout ce qui va avec l'état de dépression et tout ça, il y aura
des attentats terroristes. Ce qui se passe en Libye. Mais Moussa Bamoudi, est-ce que les manifestants eux-mêmes réclament une intervention, en tout cas une prise d'opposition de la communauté internationale, ou non ?
Absolument pas. Absolument pas. C'est vécu, même c'est péjoratif de parler de l'international, parce que les Algériens considèrent que c'est un problème algéro-algérien. D'ailleurs, ils ont formulé même des propositions de sortie de crise au commandement militaire, comme quoi ils vont avoir des gages pour qu'ils ne soient pas poursuivis en justice, qu'ils garderont leurs richesses détenues de façon un peu, on va dire, corrompue. Donc, ils essayent de formuler des solutions au régime donc autoritaire et au commandement militaire. Mais le commandant militaire fait toujours la sourde oreille. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas cette situation, parce que le blocage ne semble pas venir de la rue. Il vient du commandement militaire qui refuse toutes les vraies propositions formulées par la rue.
C'est très clair, merci Moussab Hamoudi. Il nous reste 4 minutes, on va rapidement écouter Cyril et Issa. Cyril, bonjour. Oh là là. Alors, Cyril, il faudrait couper votre radio s'il vous plaît. Normalement, vous l'entendez dans le téléphone.
Bonjour.
Bonjour Cyril, est-ce qu'on vous entend bien Cyril?
Ouais, là, vous m'entendez mieux?
On vous entend, c'est un peu saturé, allez-y.
Non, en fait, je voulais signifier deux choses et être très rapide aussi. Vu que le cas de l'Algérie, c'est un peu différent des autres pays. Parce que, vu l'orgueil des Algériens, on vit dans un monde sans les autres, on n'est rien. Ça, c'est un. Il faudrait qu'ils acceptent aussi d'amnistifier les anciens généraux qui ont travaillé avec Bouteflika. Ça, c'est de deux. Il faudrait qu'ils acceptent aussi de travailler avec les pays voisins. Et je ne pense pas si l'Algérie est capable de le faire. Le monsieur vient de le dire que c'est un problème algérien-algéro. Et donc, si ça reste comme ça, c'est comme si ils sont dans un bunker. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir dans cette histoire-là. Parce que une révolution, il faut toujours être accompagné par des militaires. C'est des militaires qui doivent faire des élections et pour donner le pouvoir aux civils. Et s'ils ne veulent pas ça, les civils ne peuvent pas tous faire les élections. Donc, il faut travailler main dans la main et mettre l'orgueil de côté, accepter aussi l'aide et l'appui des pays voisins pour essayer d'avancer. Mais
Je ne suis pas sûr que le Maroc ait formulé une proposition d'aide.
Bah, tant mieux. Pourquoi ils n'apprennent pas? Parce que, jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas si vous remarquez.
C'est le conflit qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc.
Même la France n'est pas capable de dire un mot. Parce que tu dis un mot net, ils vont parler d'ingérence. Donc, à partir de ce moment-là, si on les laisse tout seuls, ils vont se bouffer, ça va durer, et c'est l'armée qui va prendre...
J'ai bien compris, hein, Cyril, hein, vous êtes plutôt en faveur d'une intervention, peut-être pas intervention physique, hein, mais en tout cas d'une prise de position de l'international, voire des pays voisins. Issa, bonjour. Merci, Cyril. Hein. Issa, bonjour.
Ah, bonjour, sœur Stéphanie.
Bonjour, Issa.
Bonjour les auditeurs d'Afrique. D'abord, ma première pensée va aux Soudanais d'aujourd'hui et d'hier. En Afrique, ils étaient les premiers pays à se diriger vers un général, je ne sais pas si vous vous rappelez, du nom de Jafar Nibéry. On peut dire un tyran. Ils l'ont saché du pouvoir grâce à leur ténacité, grâce à leur sens de patriotisme. Ces gens-là, il faut les saluer 1000 fois et 2000 fois. Et le Mali, en 1991,
alors, on arrive à la fin de l'émission. Alors, si vous pouvez venir rapidement sur l'Algérie, ça m'arrangerait.
Oui, je vais venir tout de suite sur l'Algérie. Je ne suis ni raciste, ni d'une attitude méprisante à l'égard de l'Algérie, mais l'Algérie, de loin ou de près, n'a rien à attendre de l'Afrique. Elle ne mettra rien sur le papier provenant de l'organisation africaine. Ma sœur, l'Algérie a refusé déjà que les avions survolent son territoire pour éradiquer le terrorisme. Ce n'est pas à cette Algérie que les Africains doivent s'attarder.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence, Issa, entre le pouvoir algérien et les manifestants qui sont dans la rue actuellement?
Comment dirais-je, chère Stéphanie, vous êtes d'une intelligence comme telle. L'Algérien inclus dans l'Algérien, je ne vois pas quelle différence il y a entre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui manifestent dans les rues. Moi, je ne le vois pas.
Bon. Merci, Issa. Vous savez, l'Algérie est un grand pays fondateur, notamment de l'Union africaine. Moussa Mahmoudi, je n'ai pas le temps de vous redonner la parole, j'ai juste le temps de vous dire merci. D'avoir été notre invité et d'avoir répondu à nos questions. Pardon, je rappelle à Moussa Hamoudi que vous êtes chercheur, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonne journée, Moussa Hamoudi.
Merci, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous, chers auditeurs, de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, notamment notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur le répondeur d'Africa Radio. Laissez-nous tous vos coups de cœur, coups de gueule, 33 1 55 07 58 05, 33 1 55 07 58 05. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition du JDA. On parlera de l'absence de gouvernement en République démocratique du Congo. En attendant, prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain.